Ah, que c'est bon! Wheels of Life, Gino Vanelli. Quelle Gino belle Vanelli. Voix! Et Daniel, vous aviez l'air étonné de rencontrer des gens qui ne connaissaient pas Gino Vanelli.
Oui, ce fut un choc pour moi ce matin. Je ne vais pas nommer personne, là, mais il y a du monde ici qui ne savait pas c'était qui. Mais il y en a d'autres qui disaient « Ah, Millie Vanelli, me semble que tu en as parlé dernièrement. » Non, rien, aucun
ça
rapport.
Ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, ce n'est pas le cas de votre sœur.
Non, j'ai une de mes sœurs, ma sœur Sylvie, je la salue.
Bonjour,
d'ailleurs,
Sylvie.
La plus jeune de la famille, elle est vraiment une grande fan de Gino Vanelli.
Elle fait avait que, tout de Gino, presque.
Donc là, je vais essayer de lui rendre hommage, de ne pas faire de gaffe.
Alors, pourquoi
là-dessus?
Vous parlez de Gino Vanelli?
Bien, je te parle de Gino Vanelli un peu parce qu'il vient d'être intronisé au Panthéon des auteurs-compositeurs canadiens.
Il était temps.
Il y a une cérémonie à Toronto en octobre. Mais ça, c'est seulement le prétexte, dans le fond. Parce que faisait longtemps que je l'ai parlé, je cherchais juste un angle, un bon moment. Et je connais une bonne partie de sa carrière. Je dois admettre, ça fera pas plaisir à ma sœur, là. Je dois admettre que je l'ai abandonné à un moment donné. Là, je trouvais qu'il il a changé beaucoup. Puis c'est correct qu'un artiste évolue, qu'il change un peu de style. Il y a une période où il a changé pas mal, puis là, j'ai fait...
Vous avez décroché.
Bon, c'est ça. Regarde, moi, j'aime Gino Vanelli. J'aime pas ce nouveau-là. C'est pas grave. J'aime encore l'autre, là. C'est bien correct. Mais c'est ça, je cherchais un bon moment pour en parler. Et là, étant donné qu'il y a beaucoup de monde qui semble pas trop savoir c'est qui, je vais aller quand même un petit peu plus, peut-être dans le détail des origines.
À ne pas confondre avec Gino Sozio.
Non. Effectivement, j'ai quelqu'un ce matin qui m'a fait passer la remarque, qui pensait que je parlais de lui. Non, c'est Gino Vanelli.
Donc,
Gino
Vanelli. Montréalais.
C'est un Montréalais. Il est né à Montréal le 16 juin 1952. Il a donc 73 ans aujourd'hui. Et son père, c'était Ross Vanelli, qui était lui-même un chanteur à l'époque, qui a joué avec Maynard Ferguson. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Trompettiste très connu.
Jazz.
Je savais pas ça. J'ai compris ça dernièrement, là, que le père de Gino Vanelli avait travaillé avec Maynard Ferguson. Donc, Gino a commencé comme musicien en tant que batteur. Il a commencé à jouer de la batterie.
Il avait quel âge?
Genre 16-17 ans. Non, avant ça, parce qu'en 17 ans déjà, il a eu un contrat avec RCA Records. Donc, 14-15 ans, je dirais, là, il jouait de la batterie dans un groupe.
Comme Phil Collins.
Oui, il a commencé comme ça. Et ce que j'ai compris, c'est qu'à l'époque, il jouait dans un groupe et le chanteur du groupe avait de la difficulté avec une certaine chanson, une chanson de Tom Jones, It's Not Unusual.
Oh, il avait ça demande de la voix.
Ouais, ça prend de la
un
voix,
bon registre.
Oui, puis même si c'était un bon chanteur, ben, il y a peut-être un registre assez étendu que lui n'avait pas.
Puis Gino, il a dit quoi?
Gino, à un moment donné, il a dit, regarde, je vais te montrer cette note-là, comment la chercher.
Oh!
Il a fait pour lui. Fait que là, le chanteur, un peu vexé probablement, il a dit, mais c'était si bon, fais-la donc. C'est comme ça qu'il a commencé, dans le fond, qu'il est devenu le chanteur du groupe. Et à l'âge de 17 ans, comme je l'ai mentionné tantôt, déjà à 17 ans, il a signé un contrat avec la compagnie RCA, RCA Records. Donc, il a lancé un premier 45 tours. Ça, j'ai appris ça vraiment juste dernièrement. Je n'avais jamais entendu parler de ça.
Qu'est-ce qu'il y avait là-dessus?
Il y avait son 45 tours. Le titre, c'était Gina Bold. Gina, Gino, ça ressemble un peu. C'était peut-être son pendant féminin, je ne sais pas trop. Et il n'a pas fait ça sous son nom Gino Vanelli. Il a pris un pseudonyme qui était Van trait d'union Ellie, V-A-N-N. Ça fait Van Halen un peu, mais c'était beaucoup avant Van Halen. Donc, je pense que ça vaudrait la peine qu'on écoute un petit extrait de Gina, parce que j'avais jamais entendu ça avant.
Un mélange Tom Jones et George Michael.
Ouais,
c'est très beau.
Et puis un petit peu d'arrangement Chicago avec les cuivres.
Oui, la voix est belle.
Oui, c'était correct. Je trouve que, bon, probablement qu'à l'époque, ça aurait pu marcher. Je ne sais pas pourquoi ça ne l'a pas. Aujourd'hui, quand on écoute ça avec un peu de recul, je trouve que ça n'a pas très bien vieilli.
Ah,
mais la voix était quand même
pas
là.
D'accord.
On reconnaissait un petit peu quand même. Déjà, on voyait vers où il voulait s'en aller avec ça.
Donc, Gina Bold, donc.
Gina Bold, de père Van Ellie. J'étais mélangé dans mes fichiers tantôt. À un moment donné, je cherchais dans l'ordre Gino Vanelli. Puis là, à un moment donné, je vois Gina Van Ellie. Je dis, ah non, ça, c'est l'autre.
Ah, puis quand vous m'avez envoyé l'information, j'ai dit, ben Daniel...
Il a fait une erreur.
Alors, je l'ai corrigé.
Comme si moi, je pouvais
non,
faire des erreurs.
Non, mais ça m'étonnait.
Non, mais moi-même, je m'en ai j'étais mêlé dans mes fichiers. Oui, oui. Je dis, comment ça, Gina? J'ai rasé le corrigé.
Alors, devant Ellie, à un moment donné, Gino a pris sa place.
Gino a pris sa place et prenait sa carrière au sérieux parce qu'il est allé étudier en musique à l'Université McGill à Montréal. Ça, je savais pas ça. Donc, c'est pas juste un auteur-compositeur qui a décidé d'écrire
des... Il a fait des études.
Il a fait des études. Il a essayé vraiment de perfectionner ce qu'il... Je vais vous revenir avec ça tantôt à quel point il était perfectionniste. Il y a des détails qui m'ont vraiment accroché.
Ouais.
Là. Et en 1972, il a déménagé à Los Angeles avec son frère, Ross. Ross qui s'écrit R-O-S-S, alors que son père, c'était R-U-S-S.
Ah,
donc, c'est pas Ross Junior,
ouais,
c'est un autre Ross, pas la même affaire.
Mais ça sonne pareil.
Ça sonne pareil. Donc, et là, on va clarifier une chose, parce qu'on en a discuté un petit peu tantôt hors d'onde, parce que dernièrement, il y avait un article, je pense que c'est dans la presse, qui parlait de son intronisation au Panthéon des auteurs-compositeurs canadiens, et il racontait un peu comment il avait eu son premier contrat de disque avec A&M, qui avait attendu Herb Alpert, qui avait remis une cassette. C'est pas vrai, cette histoire-là. C'est comme... proche de la réalité, c'est pas exact. Ce qui est arrivé, dans le fond, c'est qu'avec son frère, Ross, ils ont attendu pendant des heures devant le studio de A&M Records à Los Angeles. Et quand il a aperçu Herb Alpert qui sortait du bureau, il a carrément traversé la guérite pour aller dans le stationnement. Il n'avait pas le droit d'être là. Il y a un gardien de sécurité qui courait après lui. Il s'est rendu jusqu'à Herb Alpert, qui, lui, a été quand même assez gentleman. Il a fait signe au gardien, c'est correct. Là. Il a écouté. Et Gino avait apporté sa guitare acoustique, puis il a chanté quelques-unes de ses chansons pour lui montrer ce qu'il était capable de faire, où il voulait aller, tout ça. Et je pense que il y avait là-dedans des chansons qu'on connaît déjà, là, qui sont apparues sur ses albums par la suite. « People Got a Move », « Crazy Life », qui était son premier album, « Mama Coco » et « Powerful People ». Et j'aurais été très curieux d'entendre ça juste à la guitare acoustique, parce que c'est des chansons qui ont seulement du clavier. Mais je n'ai rien trouvé qui existe.
Un jour peut-être, Gino.
Un jour peut-être. Ouais. Faudrait
mais
que je l'appelle. Je dis, joue,
oui, oui.
Je ne sais pas. Ça, c'est le détail qui me manque.
Il devait avoir des albums chez lui. Puis il aimait ce son-là.
Oui, puis probablement aussi que A&M Records, c'est une compagnie quand même assez jeune encore. Ça avait été créé dans les années 60. Donc, je sais pas. Puis pourquoi? Peut-être que c'était la dernière sur la liste aussi. Là. On s'entend qu'il a été frappé à plein de portes. Il s'est fait refuser partout. On connaît l'histoire de A&M Records parce que c'est là que ça a fonctionné. Mais on ne connaît pas toutes les autres.
Puis comment ça a fonctionné? Il y a eu un coup de foudre?
Je ne sais pas si c'est vraiment un coup de foudre ou c'est un coup de dé, peut-être. Peut-être qu'Herb Alpert a dit « Ouais, c'est différent, ça sonne bien. » Puis Herb Alpert... Herb, j'ai de la misère avec ce nom. Herb Alpert...
On ne sait pas où placer le B ou le P.
Il n'y a pas de H à son nom de famille, mais... Herb Alpert était lui-même un musicien. Puis j'en avais déjà parlé ici, son groupe Tijuana Brass à l'époque.
Oui,
c'était juste lui qui jouait tous les arrangements de trompette. Donc, il a reconnu probablement dans les arrangements de Gino quelque chose d'intéressant puis de nouveau. Donc, d'après moi, c'était un coup de dé. Il s'est dit, on va essayer ça. C'est différent, ça a des chances de marcher. Donc, son premier album, il a été signé par A&M Records en 1973, et par la suite, il en a fait 7 en tout avec cette compagnie-là, incluant le Best Of en 1980.
En 1973, il avait 21 ans, il était très jeune encore.
C'était très jeune, mais déjà, il était très décidé.
Oui.
Et son premier album, c'était en 1973, qui s'appelait Crazy Life, et là, je vais juste être correct, sincère avec moi-même. J'haïssais pas la chanson Crazy Life. Le reste de l'album m'a vraiment pas accroché. À l'époque, pour moi, c'était correct. J'étais content qu'un bon gars de Montréal fasse quelque chose de bon là-dessus. Mais pour moi, c'était correct. C'était pas plus que ça. Mais en 1974, il a fait une tournée avec Stevie Wonder. Ça aide un petit peu à se faire connaître. Et il a sorti son deuxième album qui était Powerful People, avec son premier gros hit qui était People Gotta Move. Et ça, je dirais que là, ça a frappé fort. Là, moi, quand j'ai entendu ça, j'ai fait OK, c'est ça. Pour moi, Gino Vanelli, c'est ça. C'est à partir de cet album-là, là, il a frappé quelque chose de vraiment intéressant. Et déjà, l'année suivante, 1975, il a sorti Storm at Sunup. avec Love Me Now puis Love Is a Night. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ces deux-là, mais on va entendre des extraits tantôt.
Avec plaisir. Et je pensais qu'on y allait tout de suite.
Oh, ben...
Non. Ouais, je vous suis, on vous suit.
Ouais, juste faire un petit... continuer un petit peu parce qu'on va entendre des extraits de ça aussi. Ouais. En 76, il a fait... Là, je ne me souviens jamais, le Gist ou Gist, G-I-S-T, Gist of the Gemini.
G-I-S-T, Gist.
What? Gist.
C'est dans quelle phrase?
The Gist of the Gemini.
The Gist,
The Gist
ah,
of
oui?
the Gemini.
On va vous croire, Mathieu.
OK. Anyway, avec la chanson...
Anyway.
Love of my life et Fly into this night. Ça, c'est ouais. vraiment parmi les plus connus. En 77, c'est un de mes préférés, A Pauper in Paradise. Celui-là, il est moins connu. Les chansons qui sont là-dessus sont peut-être moins connues un peu, mais moi, celle-là, je l'aimais beaucoup. Et en 78, ça, c'était vraiment le dernier avec A&M, là, avant le Best Of. Il a sorti l'album Brother to Brother, et ça, c'était probablement le plus accompli, le plus commercial, en tout cas, avec la chanson I Just Wanna Stop et Wheels of Life qu'on a entendu tantôt, et surtout Brother to Brother, et bon... Là, on va écouter des extraits pour vous vraiment donner l'étendue de
Et peut-être que les gens qui pensent ne pas connaître Gino Vallini vont,
ouais, vont reconnaître dire... des choses.
Je sais ça me dit quelque chose. Oui, il y a des chansons incontournables.
Ouais, à moins d'être né dans les 15-20 dernières années, puis ça, ce qui joue peut-être un peu moins.
Ouais.
Mais à un moment donné, je suis sûr qu'il y a des choses qu'ils vont avoir entendues là-dessus. Voilà.
Quoi dire après ça? Hey.
Donc,
Ça décoiffe.
J'espère que j'ai fait connaître un peu à certaines personnes le talent, pas seulement le talent, mais vraiment tout ce qu'il a produit Gino Vannelli. Il y a
Mathieu,
des choses
qui a une dizaine d'années de moins que nous, nous disait qu'il ne connaissait aucune de ces chansons-là. Mais est-ce que vous avez apprécié sincèrement?
Oui, tout à fait. Mais il va falloir que je les réécoute parce que c'est... C'est complexe. Je veux dire, il y a beaucoup, beaucoup d'instrumentation.
Oui. Oui. Et donc, vous avez une oreille musclée, là.
Oui. Puis je pense que c'est ce que les gens ne voient pas ou n'entendent pas, souvent, sauf les musiciens. C'est assez complexe à jouer.
Mais la basse se joue
mais
au clavier.
Là, vous êtes utilisé en disant
ça. La batterie, il s'en passe des choses.
Il y a beaucoup de choses. On parlait tantôt hors d'onde que ça avait un peu des liens avec Steely Dan aussi. Ouais. Pas la voix, là, mais le style d'arrangement musical.
Et moi, je ne suis pas une musicienne. Je ne joue pas d'instrument, mais je chante quand même, là, de façon amateur. Mais ce que je veux dire, c'est que dès qu'on a une oreille sensible, on peut quand même distinguer la richesse de ce qu'il nous propose.
Et surtout, si on se rapporte à l'époque quand ça a été fait, parce que je vous ai nommé tantôt les années, tous ces albums-là ont été faits entre 73 et 78. On est dans les années 70, ça ne sonnait pas beaucoup comme ça, la musique à l'époque. Il était vraiment unique en son genre, je dirais, là, sans vouloir exagérer. Et on disait dans hors d'onde aussi tantôt, je pense qu'il y avait vraiment tout ce gars-là. Il y avait un talent de compositeur. Son frère l'a aidé beaucoup quand même, le clavieriste, le Russ, là, on s'entend que la plupart des extraits qu'on a entendus là-dessus, c'était les claviers qui faisaient à peu près tout. Il n'y avait pas de bassiste, il n'y avait pas de guitariste, c'est le clavier qui prenait toute la place. Il y avait des très bons batteurs aussi. Et je soupçonne que le fait que lui-même était batteur, Gino, il a commencé comme ça, il devait être très, très sélectif.
Il était capable de reconnaître les bons.
Il savait ce qu'il voulait. Puis
et sur une scène, c'était aussi un showman.
Oui, il était très showman. Ouais. Donc, quand on parlait tantôt de perfectionniste, lui, je pense qu'il s'est vraiment... Il me fait penser un peu à Prince. À la limite, là. Il s'est conçu un personnage fait tout, qui a le contrôle sur tout, puis il fallait qu'il contrôle autant son image que le son de
c'est
ce qu'il faisait.
C'est peut-être pour ça que, pour certaines personnes, en tout cas, je sais qu'il avait une réputation de pas super aimable, là, mais pas confondre non plus. La personne qui est perfectionniste, puis qui sait qu'est-ce qu'elle veut, bien, fait des demandes, puis si toi, tu prends ça au personnel,
c'est
un problème.
Je pense que c'est ça. Des fois, on confond désagréable avec intraitable. Je pense qu'il devait être intraitable. Ouais. C'est ça que je veux. Je veux que ça sonne comme ça. Tu ne l'as pas, désolé, ça va être quelqu'un d'autre. Il faut que ça fonctionne. Il savait ce qu'il voulait, donc. Alors, vous êtes en tout, je l'ai. Oui, il ne reste pas beaucoup de temps. Je vais passer un peu rapidement parce que j'ai quand même des choses à dire. Quand plusieurs années après, pendant les années 80, il a changé de style beaucoup avec Black Cars, tout ça. Il a quand même gagné un prix, je ne me souviens pas quoi, pour son vidéo de Black Cars. Mais moi, je trouvais qu'il avait complètement changé.
C'est là-dessus qu'on trouvait Hurts to Be in Love?
Je me souviens.
En 84?
Oui, peut-être. Ouais. Mais je sais qu'il y avait Black Cars, en tout cas, la chanson qui a marché beaucoup.
Oui.
Ensuite, en 87, il a lancé Big Dreamers, Never Sleep avec Wild Horses. Là aussi, il a joué beaucoup, mais c'était encore différent. Là. Et en 2003, il a lancé Canto, qui était vraiment très, très différent. Là, c'était plus les synthétiseurs, c'était des arrangements plus classiques. Et là-dessus, il y avait 6 chansons. Il chantait en 4 langues différentes. 6 chansons en italien, 3 en anglais, 1 en espagnol et 1 en français. Avez-vous déjà entendu Gino Vannelli chanter en français? On va écouter un petit extrait de Joli cœur.
Écoute-moi, joli cœur, tu n'es pas maître de ton destin. La vie se moque de nos désirs. Tes cris, tes larmes n'y changeront rien.
Donc, c'était un extrait de Joli cœur qui était sur l'album Canto, la seule chanson qu'il a chantée en français, à mon avis. Et il avait écrit pour son épouse, Patricia, qui est malheureusement décédée d'un cancer en avril 2024.
Oui, une grande, grande peine d'amour.
Oui, grande peine d'amour.
Merci Gino Vannelli. Merci Daniel Lachance. On va se laisser avec un de ses grands hits.
Oui.
Get the sweet. stars.